Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi de rois, qui nous invite encore à sa rencontre cet après-midi? Nous disons encore bienvenue à ceux qui sont en train de nous joindre cet après-midi pour ce moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons inviter le prédicateur de cet après-midi. Sous vos applaudissements, nous allons rendre gloire à Dieu pour ce temps que nous allons passer ensemble. Et quand il sera là, il va prier pour le message.
Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce soir pour le privilège que nous avons d'être exposés encore à ta parole qui est la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous montrera le chemin, la vérité vous conduira sur la bonne destination. Nous voulons ce soir encore une fois, à travers ta parole, que tu nous instruises et que tu puisses façonner ton Église. Merci de prendre en charge ce moment, Saint-Esprit de Dieu, et que ton esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus, amen. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire encore merci à Dieu pour l'opportunité que nous avons de communiquer sa pensée ce soir. Mais également, je voudrais remercier le pasteur révérend Festo qui nous a fait confiance avec tous les collèges de pasteurs qui travaillent avec lui et tous les consistoires. Merci également à l'équipe de diaconie et à vous tous. Donc ce soir, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé depuis hier sur la diaconie active et l'entrepreneuriat dans l'Église. Comme nous l'avons annoncé hier, cette semaine est une semaine où quelqu'un peut faire sa rencontre avec Dieu, notamment dans un domaine ou un autre de sa vie, et révolutionner sa marche avec le Seigneur. Nous avons commencé à montrer hier que la semaine sur la diaconie, c'est aussi un moment de réflexion, un moment de méditation, un moment d'évaluation de notre impact sur la vie des autres en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous posons la question, finalement, en quoi je suis utile? Ma vie chrétienne produit quel fruit? Et ici, nous avons montré qu'il s'agit, lorsque nous parlons de la diaconie, c'est beaucoup plus l'impact au niveau vraiment social. Dans la plupart des cas, nous recherchons notre impact spirituel, mais ici, nous voulons parler de l'impact de notre vie au plan social, au plan matériel, au plan financier, au plan de bien-être dans la vie de ceux qui sont avec nous et dans notre environnement. Quelle est la richesse que nous portons et que nous pouvons transmettre aux autres? Hier, nous avons commencé avec l'expérience de Job, cet homme qui est présenté comme un homme craignant Dieu et l'équivalent des chrétiens aujourd'hui. Un homme craignant Dieu. La Bible parle d'un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, qui marchait sur la voie de l'Éternel. Les chrétiens d'aujourd'hui, si nous pouvons prendre l'équivalence. Et nous voyons comment il est en train de décrire l'impact qu'il avait dans la vie de sa communauté, au-delà simplement de ses enfants ou de sa famille. Mais c'est un homme qui était conscient qu'il était porteur d'une provision en faveur de sa communauté ou de ceux qui vivaient avec lui. Et nous allons voir ici que l'impact de Job transcendait les quatre murs de sa maison. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme qui faisait du bien à ses enfants, mais c'est un homme dont la présence était comme une assurance pour ceux qui vivaient avec lui. Il a mentionné les orphelins, il a mentionné les gens qui ne pouvaient pas se défendre, il a mentionné les pauvres, il a mentionné les veuves, et il dit, même quand les décisions étaient prises dans la communauté, lui, il était considéré. Et ici, nous sommes en train de nous poser la question, quel est l'impact de notre vie chrétienne? En quoi sommes-nous utiles à notre communauté et dans toute les directions. Et donc, nous voulons que pendant cette semaine, ce soit l'occasion pour nous en tant qu'Église de pouvoir regarder notre parcours avec Dieu et de dire en quoi réellement suis-je utile. Et aujourd'hui, je voudrais continuer sur cette réflexion. Et comme je l'avais annoncé dimanche, donc hier, nous avons toute la semaine, mais nous avons plusieurs directions. Aujourd'hui et demain, je voudrais m'apesantir sur la pensée biblique sur la diaconie. Je sais que chaque semaine, chaque année, on a toujours eu cette semaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne et on va voir comment l'Esprit va nous conduire. Je voudrais parler aujourd'hui et demain de cela, donc la diaconie, le fondement biblique de la diaconie, une compréhension large de cela. Nous allons aller dans la direction des avantages. Quels sont les bénéfices qui s'attachent à la personne qui est engagée dans la vraie diaconie? On est en train de parler ici de la diaconie active. Et hier, nous avons mentionné que la diaconie active se réfère à une sorte d'engagement intentionnel, à poser des actes dont nous pouvons anticiper l'impact. Je peux juste être là et ma vie, d'une manière ou d'une autre, diffuse certains effets. Mais quand nous parlons d'une diaconie active, ça sous-entend un certain niveau d'engagement réel, c'est-à-dire je m'engage à poser des actes, ça suppose un certain niveau d'intention. Alors, je parlerai aussi, donc, quand nous parlerons des avantages ou des bénéfices, nous allons mentionner les bénéfices pour l'Église, corps de Christ. Pourquoi la Bible nous exhorte à cela? Est-ce que c'est juste émotionnellement ou sensationnellement que nos conducteurs spirituels ont prévu qu'on parle de la diaconie? Ou qu'est-ce que Dieu attend? Ça va être les bénéfices au niveau de l'Église en général, et particulièrement l'Église locale. Et nous allons aussi parler de bénéfices au niveau de la personne qui est engagée. Quand je pose des actes, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux avantages ou bénéfices? Le mercredi, j'aimerais qu'on puisse donner une courte exhortation, mais beaucoup plus prier. Vous savez, nous sommes en train de parler d'une question spirituelle. Parfois, nous estimons que la diaconie, c'est juste faire des dons. Mais c'est même une question centrale dans une église, dans l'église corps de Christ. Lorsque elle disparaît, elle a aussi de l'impact sur l'Église. Et finalement, jeudi et vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons aborder l'autre aspect de notre thème de la semaine, l'entrepreneuriat dans l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'entrepreneuriat? Quelles sont les recommandations? Quelles sont les garanties de soutien que nous avons de la part de Dieu? Hier, je disais que il fut un temps où, quand on parlait de l'argent dans l'Église, les gens avaient l'impression qu'on est devenu charnel. Et pourtant, nous-mêmes, nous avons besoin de l'argent pour vivre. Et il faut aller aussi regarder la liste des œuvres de la chair. Quand Paul est en train d'énumérer les œuvres de la chair, il n'a pas énuméré l'argent. C'est l'amour de l'argent, l'amour exagéré de l'argent. C'est ça qui est œuvre de la chair. Mais le fait d'avoir l'argent, le fait de travailler pour avoir l'argent, ça n'a rien à faire avec être charnel. Et par contre, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont frustrés dans la vie, qui sont déçus dans la vie, qui sont comme complètement déboussolés parce que nous avons mal enseigné sur les questions de travailler pour avoir l'argent et on a même développé des théories selon lesquelles les riches n'entreront pas au ciel. Nous reviendrons sur ces choses. Ils ont du mal à vivre la vraie vie chrétienne. Ce sont des choses, des théories, des hérésies même. Donc, à un moment donné, on a même récupéré les phrases, les versets du genre « ne me donne pas beaucoup ». C'est la prière qui a été faite par un homme dans la Bible. « Ne me donne pas beaucoup pour que je ne m'écarte pas de toi, tout comme ne me donne pas peu ». Voilà, nous avons besoin d'être équilibrés dans nos enseignements. Donc, et dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer selon que le Saint-Esprit sera en train de nous guider. Donc, merci beaucoup d'être là. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire un texte ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 1er. Un autre texte qui explique mieux le thème que nous sommes en train de développer cette semaine. et qui sera la base de notre méditation aujourd'hui et demain. 2 Corinthiens, chapitre 8, le premier verset, et nous lirons à partir du premier jusqu'au septième verset, et nous allons ajouter d'autres au fur et à mesure. Si vous avez trouvé dans votre Bible, je voudrais nous encourager à lire. Lisons tous ensemble, pour ceux qui peuvent lire à l'écran et pour ceux qui peuvent lire dans leur Bible. J'aimerais qu'on les lise à haute voix, c'est notre texte de méditation aujourd'hui et demain. Allons-y s'il vous plaît. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Est-ce que nous pouvons acclamer, apprécier la parole du Seigneur? Voilà un texte merveilleux qui décrit à peu près de manière aussi extensive la question de diaconie telle que nous sommes en train de l'aborder ici. Nous ne sommes pas en train de parler de diaconie juste pour rappeler de diaconie comme un service installé au sein de l'Église et qui est constitué par le diacre. Ce n'est pas cela qui est le propos de notre enseignement ou de notre semaine. Nous sommes en train de parler de la diaconie comme une valeur, comme un ministère au sein de l'Église, un ministère auquel Dieu nous appelle tous à participer. Et ici, le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui nous donne la situation de Paul, qui gérait plusieurs églises, et il était en train d'organiser une collecte, une sorte d'assistance en faveur d'une autre église qui était à Jérusalem, et il était en train de mobiliser les autres églises. C'est là qu'il est en train de louer l'engagement de l'église de Macédoine avec un amour vraiment, je peux dire, sacrificiel. Quand nous lisons le deuxième verset, il est en train de dire « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. » Un peuple, une église qui traversait des moments très difficiles, qui traversait même un temps de crise, parce qu'il dit « Même au milieu de leur pauvreté profonde, il y a aussi une pauvreté. » Paul parle d'une pauvreté qui est profonde. Il dit « Au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu de l'adversité et dans une situation où ils étaient même en manque, mais ils ont voulu participer. Ils ont voulu être un canal de bénédiction en faveur des saints. » C'est là qu'il dit, au verset 4e, il dit « Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance qui est destinée aux saints. » Dans d'autres versions, l'assistance qui est destinée aux enfants de Dieu. Nous voyons, je vais revenir sur le texte un peu après, au fur et à mesure que nous avançons, les conditions n'étaient pas favorables.
La vie était difficile. Mais les gens de Macédoine ayant compris la valeur de participer, de démontrer leur amour par leur bien, même au milieu d'une situation compliquée, ils étaient très engagés à servir les autres. Nous parlons donc ici de la diaconie comme cette vertu, cette valeur intérieure qui nous pousse à voir le besoin de l'autre, à voir le besoin de l'œuvre de Dieu, et nous participons à l'accomplissement, ou soit comment, à la satisfaction du besoin qui est dans la vie du prochain, ou un besoin qui est dans l'œuvre de Dieu. Nous allons revenir un moment sur ça pour comment se manifeste la diaconie. Et comme nous parlons ici de fondement biblique de la diaconie, ou soit ce service, cet élan d'esprit envers le besoin dans mon environnement, j'aimerais mentionner ici des passages bibliques qui sont très fondamentaux. C'est que quand même nous remontons dans l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que cette question d'assistance des uns envers les autres dans la famille de Dieu n'est pas une question qui est d'aujourd'hui. Elle remonte même dans l'histoire ancienne. Quand nous prenons par exemple Deutéronome chapitre 14, le verset 28 et le verset 29, nous allons voir que même déjà en Israël, il existait trois types de dîmes pour les étudiants de la Bible. Il y avait une dîme qui était réservée aux Lévites et une troisième dîme était réservée. Il y avait une dîme qui était collectée pour organiser les fêtes parce qu'en Israël, il y avait plusieurs fêtes. Et il y avait une troisième dîme qui était collectée régulièrement après 3 années et que chaque juif devrait participer à cela. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 14, comme nous sommes dans une étude biblique, on peut y aller ensemble. Deutéronome 14, le verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. C'est-à-dire, Dieu permettait aux enfants d'Israël de travailler pendant 3 années. Et la 3e année, il fallait faire la sommation, il fallait faire la dîme, il fallait lever, il fallait prélever la dîme sur l'ensemble de tes produits de cette 3e année. C'est ce qu'il a eu en train de dire. Tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Verset 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras dans tes mains. Amen. Alléluia. Déjà, dans l'ancienne alliance, au milieu du peuple d'Israël, la préfiguration de l'Église d'ailleurs, le Seigneur, il établit déjà cette vérité, il établit cette loi, cette réalité qui consiste à ce que, au milieu du peuple de Dieu, au milieu de la famille de Dieu, il y a une catégorie de personnes. En fait, il crée dans le cœur de l'être humain la possibilité de partager avec son prochain le produit de son travail. Vous savez, l'un des obstacles qui fait que les questions d'amour du prochain ou de diaconie dans notre vie en tant que chrétien est difficile, c'est parfois ce sentiment du genre « moi je travaillais et eux ils vont manger sur ma sueur ». Et à cause de cela, on dit qu'ils souffrent eux-mêmes aussi, qu'ils aillent se débrouiller. Dieu reconnaît qu'au milieu de son peuple, il y a des personnes qui ont besoin de bénéficier de la grâce des uns et des autres. Et ici, il dit la veuve, l'orphelin, et il mentionne même le Lévite. Et il est en train de dire, j'aime quand il dit ceci, ils mangeront et se rassasieront. Bien-aimés dans le Seigneur, il est prévu dans la maison de Dieu que tout ce qui est résultat de mon travail ne soit pas forcément consommé par moi-même. Buona sifio. Alléluia. C'est important. Et la suite est intéressante. Ça, nous parlerons quand nous allons parler des bénéfices de la diaconie, qui peut aussi être exprimée sous forme de la libéralité sous plusieurs formes. Il dit, c'est alors afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras par tes mains ou de tes mains. Nous voyons donc déjà cette vérité établie au milieu du peuple d'Israël. Dieu a prévu que quand nous sommes une famille, que nous soyons capables de faire participer aux autres du résultat de notre travail. Quand nous voyons aussi dans Luc chapitre 10, dans une discussion que Jésus était en train d'avoir avec une foule, Luc chapitre 10, et que si nous prenons le verset 11e, nous allons voir aussi une très bonne déclaration de Jésus. Il est en train de dire ceci. Voilà, la pensée dit ceci, il est répondu que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui en a, qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Déjà une recommandation du Seigneur qui est en train de dire, celui qui peut avoir deux, il peut donner à celui qui n'en a pas. Et il dit, celui qui a à manger, qu'il donne aussi à celui qui n'en a pas. Bref, nous voyons que fondamentalement, lorsque nous parlons de la diaconie comme cette vertu, comme cet appel divin à chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, à regarder le besoin qui est dans notre environnement et que nous soyons capables de pourvoir à ce besoin, il ne s'agit pas d'une question intellectuelle, il s'agit d'une réalité spirituelle, au point que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de dire « afin que Dieu te bénisse ». En d'autres termes, un engagement réel dans la vraie diaconie, elle ouvre aussi les écluses des cieux à votre faveur. Gloire à Dieu. Alors, quelques idées pour la compréhension large. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces concepts diaconie? Premièrement, j'aimerais que nous puissions noter que la diaconie est un ministère dont la Bible parle. C'est-à-dire, c'est un appel au service. C'est un appel au service. Et j'aimerais dire que quelqu'un peut penser que moi, je n'ai pas l'espace dans l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, la diaconie, en tant que vertu, c'est un ministère que Dieu établit au milieu de son peuple. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Les œuvres dont il est question ici, c'est les œuvres dans toutes les directions. Ça peut être l'évangélisation, ça peut être la prière, ça peut être la visite, ça peut être la prière pour le malade, ça peut être le don que nous faisons aux autres, les œuvres, ça peut être la construction du temple. Il y a des œuvres que Dieu attend que nous puissions accomplir. Donc, la diaconie, c'est un appel au service. C'est un appel à nous engager dans le service pour Dieu. Hébreux chapitre 13, le verset 15 et 16. C'est un passage très intéressant. Il dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le verset 16e, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce qu'on peut lire le verset 16e ensemble? Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Une autre façon d'exprimer la diaconie, c'est la bienfaisance. C'est-à-dire cette disposition des cœurs à faire du bien. Faire du bien avec une destination sur l'autre. La libéralité, c'est cette capacité de donner avec joie et généreusement de ce qui m'appartient. Quand nous parlons de la libéralité, c'est autant ces concepts. Et quand nous parlons d'une diaconie active, c'est cet appel à la bienfaisance, cet appel à la libéralité. Et Paul, écrivant dans sa lettre aux Hébreux, il est en train de dire, n'oubliez pas la bienfaisance. Il a commencé par dire, offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. C'est bien que nous louons le Seigneur. C'est bien que nous sommes très engagés pour Dieu. Nous pouvons aller même dans l'évangélisation, une très bonne chose. Mais il dit, en plus de cela, n'oubliez pas. Comme pour dire, la diaconie était complètement essentielle pour l'évangile que nous prêchons. N'oubliez pas. Et il dit, car que c'est à de tels sacrifices. Et ici, j'aimerais déjà mentionner la diaconie ou la libéralité, la bienfaisance a un prix à payer. C'est là qu'il parle de sacrifice. Quand tu fais, quand tu t'engages dans la diaconie, quand tu es un homme, une femme de libéralité, un homme, une femme de bienfaisance, tu es en train d'offrir à Dieu de sacrifices. Il dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Si nous rentrons dans le texte que nous avons lu au départ, 2 Corinthiens chapitre 8, nous avons commencé la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e. J'aimerais qu'on lise juste le verset 7e, où il est en train de dire, « De même que vous excellez en toutes choses, » ça c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, « De même que vous excellez en toutes choses, » il mentionne la foi, il mentionne la parole, il mentionne la connaissance, le zèle. Il dit, « En plus de cela, je veux que vous puissiez aussi exceller dans cette œuvre de bienfaisance. » Frères et sœurs, Paul, quand il mentionne, c'est un appel. Oui, vous connaissez Dieu, vous lisez la parole, vous priez ensemble, vous chantez bien, vous avez la foi en Dieu. C'est une église bouillante. Mais il dit, autant, de la même façon que vous excellez dans ce domaine de la parole, dans ce domaine de prière, mais est-ce que vous pouvez aussi exceller dans le domaine de bienfaisance. À d'autres termes, nous sommes une église, nous sommes frères et sœurs, nous prions ensemble, nous chantons ensemble, nous allons au ciel ensemble. Mais est-ce que tu peux regarder à côté la situation de ton frère? C'est cela qu'il est en train de dire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je veux que vous puissiez aussi exceller. Un appel, la diaconie est un ministère dont la Bible parle abondamment. Et c'est réellement un appel au service pour les enfants de Dieu. Et c'est ce que nous voyons clairement dans ce texte de Corinthiens. Quand nous prenons aussi Tite, chapitre 3, le verset 8e, nous pouvons aussi lire, il dit ceci, « Cette parole est certaine. » Tite, chapitre 3, le verset 8e. Lisons ensemble. « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à faire quoi? À pratiquer de bonnes œuvres. » Est-ce qu'on peut répéter encore le verset 8e? Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ça, c'est la lettre de Paul à Tite, l'un des pasteurs établis sur une église. Il dit, dans toute la prédication, dans tous les enseignements, dans tout le travail pastoral que tu vas réaliser, je veux que tu mentionnes également cela. C'est pourquoi cette église est heureuse, parce que dans tout le programme de l'année, il a été établi une semaine où chacun, nous parlons de ces choses. Paul dit, il faut que tu travailles sur ça. Il faut que tu en parles. Il dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Quand un homme, Paul, inspiré à ce niveau, il dit, c'est certain. À d'autres termes, il y a des conséquences spirituelles, heureuses, bienveillantes, qui accompagnent celui qui s'engage dans cette dynamique spirituelle. J'ai commencé à mentionner que quand nous parlons de la diaconie, il ne faut pas regarder les aspects matériel ou charnel visible de cet acte. Mais il faut aller regarder d'abord la dimension spirituelle et quelles sont les retombées dont nous allons parler peut-être demain, les retombées sur la vie de quelqu'un qui s'engage dans la diaconie. Un appel, il dit, pour tous ceux qui ont cru en Dieu. Et si ce soir nous sommes hommes et femmes ayant cru en Dieu, ceci est un appel de Dieu pour dire nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Il dit, voilà ce qui est bon et voilà ce qui est utile. C'est bon et c'est utile. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est que la diaconie occupe une place importante dans le plan de Dieu. La diaconie, elle occupe une place importante. Elle est centrale dans la vie de l'Église. Elle est vraiment fondamentale. C'est là que, par exemple, Paul pouvait dire dans Galates, chapitre 6, le verset 10e, il dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Mais il précise, « Et surtout envers les frères ont la foi. Pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien. On ne va pas faire ce qui est au-delà de nos capacités. J'aime quand Paul est en train de dire aux Corinthiens, s'agissant de l'église de Macédoine, il dit, c'est vrai, ils étaient en difficulté. C'est vrai, ils étaient dans des moments très compliqués. Mais même dans leur pauvreté, ils ont donné selon leurs moyens. Mais il dit, ils se sont même dépassés. Dans Galates chapitre 6, ce que nous avons lu, le chapitre 12, 13 de Romains, il dit ceci, pourvoyez aux besoins de saints. Pourvoyez aux besoins de saints. Et dans Proverbes chapitre 3, j'aimerais qu'on lise cela ensemble. Je suis en train de dire la diaconie ou cet élan de cœur pour la bienveillance ou la bienfaisance et même la libéralité. Quand nous parlons de la diaconie, il y a trois concepts qui viennent directement, la bienfaisance, la bienveillance et même la libéralité. Ce sont des concepts qui sont très liés. La bienfaisance, le fait de faire du bien. La bienveillance, avoir une disposition dans votre cœur à vouloir le bien-être de l'autre. La libéralité, cette capacité à libérer une partie de moi-même, une partie de mes biens pour le relâcher, afin que cela contribue à la joie et au bien-être de l'autre. Proverbes chapitre 3, le verset 27 et 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Le verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. C'est tout le sens de la bienveillance, c'est tout le sens de la bienfaisance, c'est tout le sens d'un cœur libéral. La sagesse de Salomon, lorsqu'il essaie de regarder la vie des humains, il dit pourquoi, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu peux refuser à un autre enfant de Dieu un bien que tu penses que tu peux lui accorder. Tu ne sais pas ce que ça produit dans sa vie. Tu ne sais pas si tu es le canal par lequel Dieu passe pour que ton frère ou ta sœur obtienne ou ait accès à une situation quelconque. Et donc, nous parlons de la diaconie comme un ministère, comme un appel réellement au service pour les enfants de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. C'est là que Paul est en train de dire, quand nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais dit particulièrement envers les frères et sœurs dans la foi. Alors, répondons à la question, pourquoi la diaconie? Et demain, peut-être nous allons, si le temps le permet, nous allons commencer à parler des avantages. Mais ici, je voudrais qu'on parle, bibliquement parlant, quelles sont les raisons fondamentales qui font que nous devons adopter la libéralité, la bienfaisance, la bienveillance comme mode de vie. Ça doit faire partie de la culture de ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Et quand nous parlons de cette semaine de diaconie, c'est pour dire finalement, en réalité, quel est l'impact de ma vie? Quel est l'impact de toutes les grâces et de toutes les bénédictions que Dieu m'a données? Hier, j'étais en train de mentionner que souvent, quand nous disons faire du bien à quelqu'un, nous avons toujours l'impression que c'est un bien matériel qu'on peut lui faire. Vous savez que tu peux juste envoyer une salutation à quelqu'un et il dit, « Unanikumbuka leo, vraiment ta salutation me fait du bien. » Alléluia. Parfois, tu n'as pas idée. Tu as l'impression qu'il te flatte. Mais moi, j'ai eu des réponses comme ça. Quelqu'un dit, « Aujourd'hui, tu as pensé à moi et merci pour les bonnes paroles et ta salutation me fait du bien. » À un moment, je me dis, « Mais en fait, en quoi une simple salutation fais du bien à quelqu'un. Tu ne sais pas si cette personne vient de passer un moment de solitude, un moment de rejet, un moment où il avait l'impression que personne ne le considère comme vraiment un être humain, mais qu'il se sente que quelqu'un de ton rang, le salue, s'approche de lui. Donc nous avons besoin de nous poser la question, en quoi mes bonnes paroles? Job est en train de dire, ma parole, quand je parlais, les gens voulaient encore écouter parce que mes paroles avaient la vie. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer combien votre visite, j'en ai parlé hier, dans une famille, chez un bien-aimé, on a annoncé ici une visite chez le malade. Vous ne savez pas. Un jour, j'étais, je ne sais pas s'il faut dire, je ne savais pas trop exprimer le sentiment. Mais un jour, on est allé rendre visite à quelqu'un qui était vraiment malade. Et des enfants de Dieu sont venus avec tout ce qu'on a dit, nous allons amener ceci ou cela, le sucre, ainsi de suite. Et bizarrement, quand on finit de prier pour la personne, et la personne dit, maintenant, je peux aller en paix parce que j'attendais une visite comme celle-ci. Ah, nous étions tous un peu bouleversés. Nous, on est venus pour que toi, tu sois guéri physiquement. Mais notre présence, il dit, maintenant, je peux aller en paix, même si le Seigneur me retirait maintenant. Vous vous imaginez cette dimension où la présence, une prière que tu fais pour quelqu'un, quelqu'un peut me dire, maintenant, je peux mourir en paix. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais dans la dimension spirituelle, je suis en train simplement de nous amener à ce niveau où quelqu'un comprend que nous, il y a des actes. C'est là que Paul dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Et il y a des consommateurs de ces bonnes œuvres-là. Amen. Et je prie que Dieu nous amène à cette dimension où chacun peut dire, quelles sont ces bonnes œuvres? Quelles sont ces bonnes œuvres? Il y a un jour, je travaillais pour une organisation et finalement, dans une des réunions de prière, c'était une organisation chrétienne, un des amis, il a dit, mais attends, souvent, nous tous là, nous gagnons nos salaires, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer de faire du bien à certaines personnes sans même connaître qui ils sont, membres de famille? Et il dit, est-ce que chacun ne peut pas mettre, je ne sais pas, 20 $ et puis tout ça? Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir que parfois, nous consommons l'argent dans nos unités de communication, certains 50 $, 100 $ par mois, ça dépend de quel poste vous avez. Et ce jour-là, nous avons réuni quelque chose. Ce n'était pas beaucoup, environ 200 $. Chacun a donné, tout ça, environ, on était 10. Et on a pris la résolution de dire, on va sortir à l'extérieur. On va sortir à l'extérieur, n'importe quelle personne qu'on va rencontrer sur la route, on avait juste donné les critères. Il faut que ce soit une femme qui est en train de se débrouiller avec son activité sur la route et c'est ça qui va guider notre... Donc, on voit quand même sa situation, nous allons renforcer son activité. Et on avait 200 $, on a dit, on divise ça par 4, donc juste 50 $. Voilà, on est sorti. Et il y a juste une image qui ne m'a jamais quitté. On est arrivé devant, sur la route, une femme vendait un peu les avocats. Je crois à peine, on peut les évaluer aujourd'hui, mon équivalent à 10 000 francs. Et finalement, on dit, maman, jambo, ainsi de suite, on l'a salué. Nous sommes travailleurs, ainsi de suite, et nous sommes aussi enfants de Dieu. On est venus pour vraiment prier avec vous, mais aussi vous remettre ce petit acte. Quand on a même sorti l'argent de 50 $, maman, la changala, on a dit, attends, mi, makuta si kamate, yé, makuta mounia maï, tout ça. Vous voulez tout ça? Alors, on essaie un peu de lui expliquer tout ça. Finalement, elle commence à être convaincue qu'apparemment, ils veulent juste me faire du bien. Elle récupère maintenant l'argent. C'est les mots de remerciement, Hazikuishaka. Elle commence à pleurer. Il y a deux choses qu'elle a mentionnées et qui ont révolutionné ma vie. Il dit, depuis que j'existe, je n'ai jamais touché dans mes mains un montant comme celui-ci. Mungu awabariki. Léo Iminadjoa qui vraiment, Mungu en a existé. Ah, j'ai dit, Seigneur, pour 50 $ là, et quelqu'un sait maintenant que Dieu existe. Il y a souffrance et souffrance. Mais la chose était que vraiment, elle était en train de dire, elle a commencé même à prier là. Donc, on a écouté la moutouranja, ananja, ambia mungu asante. C'est là que Paul est en train de dire, vos actes de bienfaisance font monter à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Je prie que nos actions de bienfaisance puissent pousser quelqu'un à adorer Dieu. Et quand le ciel, cette adoration monte vers le ciel, il y a toujours l'opération aussi retour vers la personne qui a posé l'acte. J'ai dit, Seigneur, il y a des petits actes que nous pouvons poser, mais qui peuvent consoler, qui peuvent encourager. Et vous savez quoi? Cette maman a dit, Léoï, je vais aller d'abord garder mon argent à la maison. En fait, c'était tellement mystérieux pour elle, pour dire que ces gens, et commence à dire, mais qui vous a orienté d'abord ici? Comment vous m'avez... Non, on a dit, non, on est seulement enfant de Dieu et nous pensons que tu es aussi la fille de Dieu. Et elle a dit des choses qu'elle pouvait dire. Bref, je suis en train de nous montrer qu'il y a des actes simples que vous pouvez poser qui sont comme l'expression de l'amour de Dieu envers quelqu'un qui se sentait abandonné. Gloire au Seigneur. Pourquoi parler de la diaconie? Je vais parler de trois bonnes raisons qui devrait nous pousser à être vraiment engagés dans la diaconie ou dans ces actes de bienfaisance. La première bonne raison, c'est que Dieu a prévu de visiter l'homme à travers l'homme. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu accomplira envers un être humain à travers un autre être humain. Ce qui fait que parfois je peux être le frein d'une bénédiction qui est destinée à un frère ou à une sœur ou à quelqu'un dans mon environnement parce que je n'ai pas compris cela. Nous avons parlé du passage où Jésus est en train de dire que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Pourquoi des tuniques? Notre pasteur nous a toujours dit, un jour il nous enseignait sur ce sujet, il dit qu'un enfant de Dieu doit toujours être sensible et se poser la question, est-ce que si Dieu me donne 5 vestes, est-ce qu'il n'y a pas la veste de quelqu'un parmi les 5 là? En effet, c'était comme pour dire, tout ce qui passe par mes mains, il est possible qu'il y ait la partie de quelqu'un. Peut-être que je ne connais pas, mais que Dieu prendra soin de m'indiquer. Dieu a prévu de bénir les êtres humains à travers les autres êtres humains. À d'autres termes, nous sommes des canaux de transmission ou des canaux de transport, des moyens de transport, des bénédictions de Dieu envers les autres. Ça, c'est important. C'est là que, par exemple, Job peut dire « La bénédiction du malheureux était sur moi. » Il est en train de dire autrement, il y a des choses qui sont destinées à un malheureux ou à un orphelin, mais qui passent par moi. Mais il faut que quelqu'un comprenne que je suis un canal par lequel Dieu peut passer pour bénir un homme, une femme. Nous sommes porteurs d'une portion de grâce de Dieu l'un pour l'autre. Il est important que la diaconie soit active, que ce ministère de libéralité soit réel dans l'Église, parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a certaines grâces, il y a certaines provisions qui m'appartiennent, mais qui sont dans les mains de l'autre. Je me rappelle quand j'étais encore trop jeune et étudiant, et un jour j'étais en train de conduire les cultes. Et j'aime toujours partager ce témoignage parce que ça m'a révolutionné et ça a même révolutionné ma vie dans la façon de regarder les autres. Et ce jour-là, je conduisais les cultes. Mais en fait, j'avais un besoin. J'avais vraiment un besoin à ce moment-là, de sorte que même après les cultes, tu as bien chanté, tu as bien adoré, et tu te dis, Seigneur, et ces besoins, comment on les traite? J'étais un étudiant, on était à la fin du cycle, et même la capacité d'aller payer quelqu'un qui va imprimer, saisir pour vous, imprimer pour vous, c'était pas facile. Et je finis les cultes comme ça, et on était en train de saluer les gens à l'extérieur, comme on le fait toujours ici. Il y a un frère qui vient, qui dit, bien-aimé, j'aime comment Dieu t'utilise. Tu as bien conduit les cultes aujourd'hui, j'ai été béni. Mais je sens dans mon cœur que je dois accomplir quelque chose pour toi. Tu as un besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est un frère qui n'est ni de ma tribu, qui ne vivait même pas à Goma, qui venait juste d'arriver dans le cadre d'un programme, je ne sais pas qu'on appelait, qu'on adhère, ainsi de suite. Ah, moi, je commence d'abord à m'étonner. Comment ça? J'ai dit, papa, je ne vais pas vous cacher. En réalité, je suis étudiant. Voici mon besoin. Il dit, non, ok, tout ça, dis-moi, ça coûte combien? Et je prends en charge. C'est à l'époque où, franchement, quelqu'un te donnait 50 dollars ou 100, c'est vraiment une grande fortune. Même aujourd'hui, c'est une grande fortune. Que tu libères ton argent, c'était comme s'il me donnait, il ouvrait une porte de ma vie. Et je suis allé me mettre à genoux, j'ai dit, Seigneur, et si ce frère ne comprenait pas cette sensibilité de l'esprit? Je sais que Dieu allait trouver des solutions autrement, mais la vérité, c'est que quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas de ma famille, il transportait une solution à ma faveur. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai fini les études. Aujourd'hui, je ne sais même pas là où il est, mais c'est comme un ange sur mon chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous met à cœur, il ne sait pas comment je suis allé me mettre à genoux pour lever mes mains et dire, Seigneur, merci, tu es fidèle. La diaconie rend vivantes les promesses de Dieu dans la vie de son Église. Alléluia. Et nous croyons que la grâce de Dieu accompagne ceux qui sont fidèles. De Corinthiens chapitre 5, le verset 20, il est dit, car nous sommes, il est en train de dire, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous pouvons aussi paraphraser ce passage. Paul est en train de dire, nous sommes des représentants de Dieu. Ça veut dire, dans d'autres versions, nous sommes les mains, les pieds du Seigneur. Nous parlons, nous agissons pour Dieu. Il y a des grâces qui viennent du haut du ciel et qui passent par nous pour atteindre les autres. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. La deuxième raison, nous avons dit la première bonne raison pour laquelle nous devons nous engager et nous devons être sensibles, c'est parce que nous sommes les porteurs des grâces des autres, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, il y a certaines grâces qui passeront par nous. Qui passeront par nous. C'est comme ça que quelqu'un, il nous disait un jour, il exhortait, dit, quand tu sens que tes affaires réussissent, vraiment, il n'a réussi et ça, toi-même, tu es étonné. Mais comment, ces jours ici, j'ai beaucoup de clients, comment l'argent entre? Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire passer quelque chose entre tes mains pour son œuvre, pour son œuvre? Et si tu retiens, tu vas bloquer le processus. Tu vas bloquer le processus. Si par exemple, dans cette église, on dit, nous allons faire telle réalité, l'argent ne va pas tomber du haut du ciel, comme à l'époque d'Élie ou je ne sais pas, un autre prophète. Mais en réalité, comme le corbeau a amené un peu la nourriture. Mais aujourd'hui, si Dieu va accomplir, il va amener l'argent dans cette église, le moyen dans cette église, ça passe par nos mains. Gloire au Seigneur. C'est là qu'on nous dit aussi, on nous enseigne, en réalité, la sensibilité d'un enfant de Dieu aux besoins de Dieu lui donne accès aux provisions divines. Parce qu'il y a des personnes qui sont bénies simplement parce qu'ils sont les tuyaux par lesquels Dieu veut faire passer sa provision en faveur de ses enfants et de son Église. Deuxième bonne raison, la pensée biblique est de considérer l'Église comme une famille. L'Église est une famille. Pourquoi la bienfaisance? Pourquoi la libéralité? Pourquoi la bienveillance doit être le centre, une partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu? C'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans une famille. Nous sommes frères et sœurs. Et par conséquent, nous avons l'obligation aussi de nous prendre en charge. C'est là que Paul est en train de dire le verset que nous avons dit au départ. Il dit, autant que vous excellez, je vais essayer de retrouver ce passage. Il dit, vous avez excellé dans la foi, dans la connaissance, dans tout ce qui est réalité spirituelle, mais n'oubliez pas aussi d'exceller en bienfaisance. Aux Hébreux, il a dit, n'oubliez pas la bienfaisance. Pourquoi la libéralité? L'Église, c'est une famille. Déjà dans le jardin d'Eden, dans Genèse chapitre 4, le verset 8, Dieu, il est en train de dire à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Et voici la réponse de Caïn, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Combien de fois ce sentiment nous anime? Hier, je vous ai partagé mon expérience en tant que frère engagé dans l'Église, aujourd'hui pasteur, mais à un moment donné, j'avais honte de constater qu'il y a un frère avec sa femme et qui est avec moi dans l'Église, nous servons Dieu ensemble, mais il ne m'est jamais arrivé dans l'esprit pour dire, est-ce que je peux aller regarder où vit mon frère? Ou soit quand on dit, bon, c'est là que nous venons avec tout le courage. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre à se faire du bien pendant que nous sommes vivant. Le sentiment ou la réponse de Caïn, elle est encore présente dans nos cœurs aujourd'hui. Où est ton frère Abel? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Et encore aujourd'hui, où est ton frère? Est-ce que tu connais la situation de ton frère Abel? Est-ce que tu connais là où il est? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Dans Jean chapitre 13, le verset 34 et 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi la diaconie? C'est parce que nous sommes une famille. Et en tant que famille, nous avons besoin d'être attentionnés l'un envers l'autre. Demain, je parlerai des avantages, des bénéfices, ce que ça fait, ce que ça produit. Dans l'Église, nous sommes une famille. La troisième raison pourquoi il faut parler et rappeler davantage la question de diaconie au sein de l'Église, parce que la diaconie est une valeur qui a tendance à disparaître dans l'Église aujourd'hui. La même façon que Caïn a répondu, c'est peut-être ça aussi aujourd'hui. Nous sommes là, je vous ai donné des exemples, dans les églises aujourd'hui, parfois les gens n'ont pas besoin d'être en contact avec les autres. Je finis ma prière, je m'en vais. Et tu as l'impression que les autres te dérangent. Mais Jésus est en train de dire, comment connaître-t-il que vous êtes mes disciples si vous ne vous aimez pas? La diaconie, une valeur qui disparaît dans l'Église. Une vertu qui disparaît aujourd'hui dans l'Église. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, il a dit ceci, Paul à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des conditions difficiles, telles que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il dit, car les hommes seront égoïstes, ils seront amis de l'argent. Il dit même, les gens seront méchants, insensibles. Frères et sœurs, que ces choses ne nous rattrapent pas. Combien de fois nous sommes insensibles dans l'Église, non pas seulement envers le besoin de mon frère ou de ma sœur, mais parfois insensibles par rapport aux besoins de l'autre, disons le besoin de l'Église. Combien de fois nous voyons même dans les églises, il faut que le pasteur puisse suer pour que vraiment Christ soubato et Sadak. J'étais dans une église, j'ai vu le pasteur, il a pris un panier et puis il est venu devant l'assemblée. Il commence à expliquer, si dans un mois nous aurons telle activité, c'est vraiment, Mouto est vraiment, Mounisikilia Taouruma. Vous imaginez, j'étais très malheureux même, c'est pas possible. Et puis il avait vraiment l'air malheureux quoi, donc il a toute l'église comme ça, mais pour que Mouto et Jou Akazi Yamungu, il faut qu'il y ait Bembeleze Wamini. Non, Paul est en train de dire, ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu et ils avaient un cœur pour même moi, l'apôtre. Ils se sont donnés à moi et ils veulent aussi participer à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Voyez-vous ces trois dimensions? Ils aiment Dieu. Ils sont dans une situation compliquée. Bien-aimé, l'exemple que je vous donne là, je ne l'invente pas. J'étais assis dans une assemblée. J'ai dit, papa, ne me donne pas un ministère comme ça où je viendrai supplier les gens. Si Moutolé et Mungu, vraiment, les gens seront insensibles. Insensibles à la douleur de l'autre, mais aussi insensibles aux besoins de l'Église. Et nous parlons de la diaconie parce que l'absence de cet élan de libéralité, les gens veulent amasser, amasser. Demain, nous allons parler des avantages et des bénéfices pour des hommes et des femmes qui saisissent. Et j'ai vu maintenant les gens commencer à s'élever. Apparemment, vraiment, les gens qui ont pitié du pasteur. Vraiment, Mouzer Sassima m'a parlé, les Kitunga Tarouya, là, toute ville. Il a découragé. Je ne sais pas, vous savez, quand les gens mettent la main comme ça, on ne peut pas vider ou la moukokitu. Parce qu'on peut venir aussi encourager le pasteur. Alléluia. En tout cas, ça, c'est dans cette église, ce n'est pas ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi je voudrais dire à l'église, rendez aussi la tâche facile à votre pasteur. Alléluia. Ça fait énormément du bien lorsque un pasteur, il se lève et dit, voici le besoin que Dieu m'a mis à cœur. Et des hommes et des femmes se lèvent librement et disent, papa, nous allons prendre cela en charge. La libéralité, une valeur qui tend à disparaître et qui rend la vie, même l'œuvre du Seigneur, très difficile. Aujourd'hui, je veux que nous puissions prier pendant quelques minutes pour notre Église. Nous prions pour notre cœur. La libéralité, ou soit la diaconie, est le moyen par lequel Dieu passe pour bénir son peuple, pour distribuer la bénédiction au milieu de son peuple. La libéralité, elle confirme la valeur de l'Église comme une famille où tu sens que je suis aussi membre de la famille, je fais partie de la famille. C'est vrai, il y a l'expérience de l'Église primitive qu'on devrait trouver des adaptations dans notre contexte aujourd'hui. Mais dans l'Église, au temps des apôtres, ils avaient tout en commun et tout le monde avait accès aux ressources selon ce besoin. Et aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous soutienne. Je me résume pour ce soir. Nous avons parlé de la diaconie comme un besoin urgent dans l'Église, comme un appel au service, un appel divin au service. C'est Dieu qui nous appelle. Paul est en train de dire, autant que vous excellez dans la connaissance, dans la prière, dans les jeûnes, dans les chansons, excellez aussi en bienfaisance. Et nous avons montré que la diaconie tire ses origines, même dans l'Église, disons au temps d'Israël, à travers même la dîme, où Dieu dit, vous allez prélever une dîme en faveur de vos frères. En d'autres, tu vas mettre de côté une partie de ton bien, mais qui va faire du bien à quelqu'un d'autre. Et ensuite, nous avons montré que finalement, la diaconie occupe une place très importante dans l'œuvre du Seigneur et dans le plan de rédemption de Dieu. Et enfin, nous étions en train de mentionner les trois bonnes raisons pourquoi la diaconie devrait être active, devrait être installée, devrait être permanente, comme une culture, comme un mode de vie, où toi-même, tu te réveilles un jour, tu dis, je vais faire du bien à quelqu'un. Tu te réveilles un jour, tu dis, aujourd'hui, je vais aller rendre visite à telle famille. Aujourd'hui, je vais faire du bien à tel serviteur dans notre église. Comme Paul mentionne, il dit, je suis comblé, j'ai reçu tout le don que vous m'avez envoyé. Alors, il dit, mon cœur est joyeux. Vous savez que même la diaconie, la bienfaisance peut booster le cœur de votre pasteur, des serviteurs qui sont au milieu de vous. Il dit, je suis comblé, je suis dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin réellement que la diaconie devienne une culture. Demain, je veux parler de comment nous pouvons, de manière pratique, au regard de la parole de Dieu, certains exemples, comment certains hommes qui nous ont précédés, parce que ces choses ne commencent pas avec nous, il y en a qui nous ont précédés et qui ont vu la grâce de Dieu. Comment on peut vivre la diaconie? Et enfin, nous allons parler des bénéfices. Ça sera pour demain, et mercredi, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous lever, prier pendant juste une minute? Alléluia. Merci, Jésus. Oh Dieu, il est vivant, Jésus, oh, il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus, oh, il est vivant. Il est vivant, Jéhovah, il est vivant. Il est vivant, Jésus, oh. Oh, chante, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Yeah. Alléluia. Prions et demandons à Dieu de répandre l'esprit de libéralité, l'esprit de bienfaisance, l'esprit de bienveillance sur nos vies. Nous venons de voir que cela est biblique. Dieu nous recommande, Dieu nous demande. Dieu nous demande que nous soyons des hommes capables de faire du bien aux autres, des hommes capables de s'engager généreusement, libéralement, pour soutenir son œuvre. Et demain, nous parlons des avantages. Il y a tellement d'avantages, il y a tellement de grâces qui accompagnent des hommes et des femmes qui libéralement, généreusement, s'engagent dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes le canal par lequel Dieu fait passer la bénédiction des autres. Et ce soir, nous prions que Dieu, tu nous aides à ouvrir nos yeux au milieu des tribulations, au milieu de la pauvreté. L'église de Macédoine croyait qu'il était toujours possible et capable de faire quelque chose. Et aujourd'hui, je ne veux pas regarder à ce que j'ai, mais je veux, Seigneur, que tu me donnes un cœur qui a la capacité de voir le besoin de mon frère, un cœur qui a la capacité d'étendre la main pour consoler, pour encourager, pour soutenir un frère, une sœur avec laquelle nous sommes dans la marche vers le ciel. Seigneur, merci. Ce soir, nous te disons merci. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour la parole de ce soir. La Bible déclare, au milieu des tribulations, au milieu des épreuves, Seigneur, ton Église, ayant compris les secrets et la valeur de la libéralité, la valeur d'une diaconie active, ils s'empressaient à trouver quelque chose pour exprimer leur amour en faveur des enfants de Dieu. Seigneur, encore aujourd'hui, dans notre temps, dans cette ville de Goma, dans ce pays, avec des conditions difficiles, nous prions que Dieu, tu puisses ranimer, rallumer le feu de la libéralité dans nos cœurs, le feu d'une vie de diaconie qui est réelle, active. Seigneur, merci de bénir ton Église et ton peuple. Nous sommes là assis à tes pieds et nous voulons apprendre davantage. Bénis ton Église et répands ton esprit sur l'ensemble de l'Église. Même ceux qui ne sont pas dans l'assemblée ce soir, que le Saint-Esprit communique cet esprit dans l'ensemble de l'Église, afin que mon Dieu, dans cette génération où tu nous as appelés, que nous soyons empressés pour que nous puissions participer à l'œuvre de Dieu, participer avec joie, participer avec énergie, participer avec détermination, comme l'église de Macédoine qui pressait Paul pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire encore afin que nous puissions participer à cette œuvre d'assistance au sein de Dieu. Seigneur, jusqu'à la fin de cette semaine, fais quelque chose et que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Nous disons merci, cher pasteur, pour ce message. Je sais que nous avons été bénis et ce n'est que le début. Nous vous invitons encore demain jusqu'au vendredi à puiser encore la parole de Dieu qui nous accompagne dans notre vie de chaque jour.